Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du jeudi 23 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. En Libye, le Parlement se penche lundi sur un nouveau calendrier électoral. En Tunisie, Human Rights Watch dénonce les poursuites judiciaires contre des voix critiques du coup de force du président Kais Saied. Les Soudanaises descendent dans la rue pour dénoncer le viol de manifestantes. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les Libyens pourraient connaître la nouvelle date de l'élection présidentielle à l'issue de la réunion du Parlement prévue lundi. Les députés vont tenter de mettre en place un nouveau calendrier électoral après le report du scrutin qui était prévu demain vendredi. Le point avec Marius Muhunga.
Une commission parlementaire a en outre été chargée par le Parlement de préparer une nouvelle feuille de route pour la transition dans le pays. Le Parlement pourrait aussi proposer un remaniement gouvernemental d'ici la prochaine échéance électorale, voire la formation d'un nouvel exécutif, selon une source parlementaire. Rien n'est garanti toutefois que les éventuelles décisions du Parlement, qui siège à Tobrouk dans l'est de la Libye, seront suivies par les autorités de Tripoli. La rivalité entre les deux camps est à l'origine du report des élections. La haute commission électorale a proposé de reporter d'un mois, au 24 janvier 2022, cette échéance cruciale dans le processus des transitions parrainées par l'ONU. Elle est censée sortir le pays du chaos qui a suivi la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, a rencontré mercredi un certain nombre de candidats pour discuter des moyens de préserver et de faire avancer le processus électoral.
Human Rights Watch dénonce la multiplication des poursuites judiciaires en Tunisie. Pour cette organisation, ces poursuites s'appuient sur des lois répressives, visent les critiques du coup de force du président Kais Saied. Le point avec Abdulrahman Dia.
Dans un communiqué, Human Rights Watch indique que les autorités tunisiennes poursuivent les citoyens devant des tribunaux militaires et civils et les emprisonnent pour avoir critiqué publiquement le président Kais Saied et d'autres responsables. Selon l'ONG, les procureurs s'appuient sur les lois répressives promulguées avant la révolution. Eric Goldstein de Human Rights Watch estime que faire taire les critiques représente un double danger à l'heure où le président est occupé à concentrer tant de pouvoir entre ses mains. Des députés, activistes sur les réseaux sociaux et des personnalités politiques ont été poursuivis par des tribunaux militaires ou civils après des critiques publiques contre la politique de M. Saïd. Hier mercredi, un tribunal de Tunis a condamné par contumace l'ancien président Moncef Marzouki à 4 ans de prison pour avoir porté atteinte à la sûreté de l'État à l'étranger après des déclarations en France critiquant publiquement le président Saïd.
Plus d'un millier de Soudanaises ont manifesté aujourd'hui contre le viol après que l'ONU a rapporté 13 allégations de violences sexuelles lors des manifestations pour le 3e anniversaire de la Révolution. Le point avec chérubin Gaby Dorsil.
Une cinquantaine d'organisations de la société civile avaient appelé à la mobilisation dans une quinzaine de villes du pays où l'ONU fait régulièrement état de violences sexuelles, notamment menées par les forces de sécurité ou leurs supplétifs paramilitaires au Darfour. Les viols ne nous arrêteront pas. Les Soudanaises sont plus fortes et le retour en arrière est impossible, pouvait-on lire sur les banderoles. Environ 150 manifestantes ont déposé une lettre à la représentation à Khartoum du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Elles réclament justice pour les manifestantes violées le 19 décembre, mais également pour les Soudanaises victimes de viols ou de viols collectifs depuis le début, en 2003, de la guerre au Darfour. Le rapporteur spécial de l'ONU pour la liberté d'association, Clément Voul, a également réclamé que les autorités forcent les auteurs des viols et violences sexuelles à rendre des comptes. L'ONU a affirmé avoir recensé 13 cas de femmes et filles victimes lors des manifestations du dimanche et des allégations de harcèlement sexuel par les forces de sécurité contre des femmes qui tentaient de fuir la zone autour du palais présidentiel dimanche soir. Les ambassades du Canada, de l'Union européenne, de la Norvège, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis ont condamné l'utilisation des violences sexuelles ou basées sur le genre comme une arme pour éloigner les femmes des manifestations et les faire taire.
Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion de plusieurs roquettes tirées par des djihadistes présumés à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, le jour de la visite du président Muhammadu Buhari, ont affirmé des résidents et des services de secours. Les habitants ont imputé l'attaque à l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, qui sévit notamment dans la région. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées lors de l'attaque par des djihadistes présumés d'un poste frontière entre le Niger et le Burkina Faso, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey. C'est le poste de contrôle frontalier de Makalondi qui a été visé par une importante attaque d'hommes armés dans la nuit de mercredi à jeudi, et il y a eu des morts et des blessés, a indiqué à l'AFP un élu local. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque, mais sans avancer de bilan. 8 militaires congolais ont été tués dans 2 attaques menées par de présumés rebelles du mouvement du 23 mars MV23 contre leur position depuis le début de la semaine dans l'est de la RDC. Selon le lieutenant-colonel Mohindo Rwanzo, directeur du cabinet de l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, c'est la 7e attaque menée depuis le mois de novembre par les M23 contre les positions de l'armée dans une zone du parc des Virunga, dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma, capitale provinciale. Toujours en RDC, au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans le crash d'un petit avion à quelques minutes de son atterrissage à l'aérodrome de Shabunda de l'est du pays, a-t-on appris de sources officielles. C'est un petit porteur de la compagnie Malo Aviation en provenance de Goma au Nord Kivu. Il n'y a pas de survivants, il y avait 4 personnes à bord, dont 2 passagers et 2 membres d'équipage. En plus des personnes à bord, l'avion transportait aussi des marchandises, a déclaré à l'AFP Théophile Kiloué, gouverneur intérimaire du Sud Kivu. Le bateau de transport de marchandises qui a fait naufrage lundi au nord-est de Madagascar a fait 85 morts, selon un bilan actualisé jeudi. Les victimes étaient des saisonniers malgaches qui venaient de terminer la récolte de la girofle et rentraient dans leur famille pour Noël. L'embarcation en bois de 12 mètres de long n'était pas autorisée à embarquer de passagers, mais comptait pourtant 138 personnes à son bord, ont précisé jeudi les autorités maritimes. La France a ouvert jeudi ses archives relatives aux affaires judiciaires et aux enquêtes de police dans l'Algérie en guerre contre la colonisation, en vertu d'un texte publié au journal officiel. L'arrêté du ministère de la Culture rend consultable toutes les archives publiques produites dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966. Toutes ces archives étaient de droit non consultable pendant 75 ans, sauf dérogation. Le président Emmanuel Macron a promis d'aider les historiens à éclairer les zones d'ombre de l'action de la France en Algérie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités chinoises ont déclaré jeudi être prêtes à faire face à des foyers épidémiques lors de 2 Jeux olympiques d'hiver de Pékin, prévus du 4 au 20 février 2022, avec des hôpitaux désignés où envoyer les athlètes testés positifs. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde, c'est avec John Lyndon.
Pas moins de 13 millions d'habitants de la ville de Xi'an dans le nord de la Chine ont débuté jeudi un confinement à domicile, les autorités voulant contenir un foyer épidémique à 6 semaines des JO. Après l'Espagne, la Grèce a annoncé que le port du masque serait obligatoire en intérieur comme à l'extérieur pendant les fêtes de fin d'année. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni a enregistré mercredi plus de 100 000 cas de coronavirus en 24 heures. Le président Emmanuel Macron a de nouveau appelé les Français à pratiquer des tests avant les fêtes. Sur l'ensemble du continent américain, le nombre de cas de COVID-19 a maintenant dépassé les 100 millions selon l'Organisation panaméricaine de la santé, soit 22 millions au Brésil et 51 millions aux États-Unis. Les États-Unis, où le président américain Joe Biden a annoncé qu'il envisageait de lever les restrictions de voyage pesant sur 8 pays africains. Le régulateur américain du médicament a approuvé mercredi l'utilisation en urgence du traitement antiviral contre le COVID-19 développé par Pfizer, alors que le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca affirme ce jeudi qu'une troisième dose de son vaccin contre le COVID-19 augmente significativement le niveau d'anticorps contre Omicron.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Au Ghana, les gérants des points de service d'argent mobile sont en grève pour protester contre la taxe de 1,75% sur les transactions électroniques que le gouvernement veut faire passer dans le budget 2022. Annoncée le mois dernier, cette taxe doit permettre de soutenir notamment l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, le numérique et les infrastructures routières. Au Zimbabwe, des milliers de personnes attendent devant les banques et bureaux de change pour obtenir de l'argent liquide. Le pays, ravagé par l'inflation, connaît une grave pénurie de devises. Certaines personnes sont restées jusqu'à une semaine dans des files d'attente. En août, les bureaux de change ont été autorisés à vendre des devises étrangères à un taux avantageux, ce qui a provoqué une grande affluence vers les banques du pays. Le Fonds monétaire international a approuvé un accord pour environ 570 millions de dollars au Tchad sur 3 ans afin de financer la balance des paiements et du budget du pays. Dans le cadre du programme de facilité élargie de crédit, la somme devrait permettre de réaliser une croissance verte et inclusive et de réduire la pauvreté, indique l'institution, soulignant que la dette publique du Tchad n'est plus viable.
En transition, nous passons à votre page sport avec Élisée Onkpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir à tous. La Coupe d'Afrique des Nations de football aura bien lieu, je le disais ce matin, et à 16 jours du début de la compétition. Les sélectionneurs composent déjà leur liste de joueurs. Aujourd'hui, c'est le Maroc. Le sélectionneur Vahid Ali Lodic a dévoilé sa liste de 28 joueurs. Les cadres Achraf Hakimi, Yassine Bounou ou encore Romain Saïd sont tous présents, tout comme l'attaquant vedette El Nesri qui devrait finalement être rétabli à temps pour prendre part à la compétition. Deux nouveaux sont à signaler. L'ailier Abdesamad Azalzouli du FC Barcelone et le milieu offensif Azedine Ounahi, très en vue avec Angers. Sinon, on retrouve les valeurs montantes des derniers mois comme Chahi Louza et Riyad Mahé ainsi que Boufal et El Karbi. En revanche, pas d'Hakim Ziyech et de Nusser Mazraoui en froid avec le technicien franco-bosnien. Les Lions de l'Atlas affronteront le Ghana, le Gabon et les Comores dans le groupe C. Les Comores, justement, ont concocté une liste de 26 joueurs pour la grande fête du football africain. Aucune nouveauté n'est à noter sur la liste d'Amir Abdou. Le technicien comorien a fait appel à l'essentiel du groupe qui a pris part aux éliminatoires. Des cadres comme El Fadou Mohamed et Najim Abdou, aux prometteurs Yassine Bourane et Kassim Ndaouma. Les jeunes Yed Mohamed et Moussa Djonoï sont aussi retenus. Ils avaient intégré le groupe durant la préparation. Le groupe entrera en regroupement dès le 25 décembre à Jeddah en Arabie Saoudite. Le Burkina Faso a également dévoilé aujourd'hui sa liste de joueurs convoqués pour cette CAN. Le sélectionneur Kamou Malo a fait appel à sa star Bertrand Traoré qui n'a plus joué avec la sélection depuis 5 mois pour cause de blessure. Sinon pour le reste, ce sont les mêmes qui ont pris part aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022. Par contre, Lassina Traoré, l'attaquant de Shakhtar Donetsk en Ukraine, est absent pour de longs mois à cause d'une blessure au genou. Les étalons affronteront le Cameroun en ouverture de cette CAN et ensuite le Cap-Vert et l'Éthiopie. Le pays hôte, le Cameroun de son côté, a livré la liste définitive de 28 joueurs. Le sélectionneur Antonio Conceição a fait confiance aux têtes d'affiche comme Eric Choupo-Moting, Vincent Aboubakar, André Onana, Karl Etoko Kambi ou encore Zambo Anguissa. Christian Bassogog est aussi présent. On note note aussi le retour de Clayton Ndié. L'ancien Marseillais n'est plus appelé en sélection depuis 9 mois. En revanche, manque à l'appel Paul-Georges Ntepo, Anno Tchoum et Sacha Boué. Rendez-vous donc à partir du 9 janvier prochain. Sur le terrain à présent, le national Al-Ahly du Caire a remporté la Super Coupe d'Afrique des clubs au terme d'un match spectaculaire. Le vainqueur de la dernière Ligue des Champions s'est imposé au tir au but 6-5 face au Raja de Casablanca tenant du titre en Coupe de la Confédération. Le score était de 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Le club pirate remporte ainsi le 8e titre de son histoire alors qu'il était mené au score jusqu'à la 89e minute.
C'était les sports de Élisée Compagnie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'ancien président de transition en Guinée, le capitaine Moussa Dadis Camara, se dit prêt à se mettre à la disposition de la justice pour faire la lumière sur les événements ayant précédé sa chute. À son arrivée mercredi à l'aéroport de Conakry, il a été accueilli par de nombreux partisans vêtus de t-shirts à son effigie, chantant et dansant. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, a recueilli quelques réactions sur un reportage.
À peine arrivé à Conakry, le capitaine Potchit s'est dit prêt à répondre à la justice de son pays, lui qui est inculpé dans le massacre qui a coûté la vie à au moins 150 opposants. Pour les familles des victimes, son retour est un début d'espoir. Assoumaou Diallo a perdu son fils dans le massacre du 28 septembre à Conakry.
Je pense que c'est très important. Son retour, c'est bien apprécié parce que cela fait 11 ans qu'il n'est pas en Guinée. Aujourd'hui, nous estimons qu'avec son retour, avec l'engagement du CNRD, avec l'engagement du colonel Mamadi Doumbouya, qui nous parle de justice, qui promet l'ouverture du procès en 2022. Donc, l'arrivée de Dadis, c'est vraiment salutaire pour nous.
Le 28 septembre 2009, des milliers de Guinéens étaient sortis pour manifester contre une éventuelle candidature à la présidentielle de Dadis Camara. Dans la capitale, ils sont nombreux à se souvenir de ce lundi noir. Au micro de VOA, on ne se fait pas prier pour réagir au retour de Dadis Camara.
C'est bien pour la Guinée parce que c'est un ancien président. Et je pense aussi que ça fait longtemps qu'il est à l'exil. L'exil, c'est jamais satisfaisant pour quelqu'un. Dadis, c'est un retour gagnant parce que, bon, suivant le journal, c'est quelqu'un qui va faire de l'unité nationale. Et puis...
qu'il soit parti au Burkina, c'est pas une très bonne chose pour le pays. Et avec l'avènement du 28 septembre, on va connaître beaucoup de choses et on aura une idée arrêtée sur le passé.
Je trouve que le retour de Dadis est salutaire. C'est une chose qu'on espérait depuis longtemps. Ça y va de la cohésion sociale et je félicite l'acte qui a été posé par le président de la République. Ça va changer énormément de choses à partir du moment où c'est tous les fils du pays qui commencent à revenir. Et je pense que ça, c'est déjà un changement.
Moussa Dadis Camara est arrivé à Conakry quelques jours après le retour de l'ancien président de la transition Sékouba Konaté. Les nouvelles autorités de Conakry avaient autorisé des visites en Guinée aux deux anciens dirigeants de la junte au pouvoir entre 2008 et 2010, tout en précisant qu'il ne s'agit point d'entrave à la procédure judiciaire. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Grève des syndicats d'enseignants au Sénégal. Après moins de 3 mois de cours, les syndicats commencent déjà à enchaîner les grèves et les débrayages pour forcer le gouvernement à respecter les accords déjà signés. Une situation qui contrarie fortement les parents d'élèves, de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Dans la cour des écoles, l'habituelle clameur des élèves est remplacée par un silence assourdissant. Il est 12h et beaucoup de salles de classe sont désertées par les apprenants et les enseignants. Pour les parents d'élèves comme Souleymane Diaye, c'est une situation très difficile à vivre.
Ça pénalise les élèves, quoi. Ça pénalise les élèves. On trouve depuis quelques années que les élèves n'ont plus de bonnes notes. On dit que les professeurs ils ne manifestent pas pour rien. S'ils manifestaient que l'État du Sénégal a une part de responsabilité dans tout ça, normalement, je vais demander au président d'être un peu compréhensif, d'écouter les professeurs et autres, mais aussi aux professeurs d'être un peu, d'avoir un peu de cœur, quoi, de comprendre les élèves au lieu de les pénaliser.
Dans le même sens, Moussa Kanouté indique que les grèves poussent les parents à inscrire leurs enfants à des cours particuliers. Pour ce père de famille aux revenus modestes, la grève grève un peu plus l'abcès de la difficile gestion du quotidien familial.
Cette situation est très difficile, voire inexplicable. Tout le pays va mal, la conjoncture est difficile et en plus, on doit se décarcasser pour assurer la scolarité des enfants et même payer des cours de renforcement. Car il faut dire que sans ces cours de renforcement, ils n'auront pas le niveau parce que les grèves sont de trop et les examens sont fixés sans même veiller au quantum horaire. Nous sommes des familles modestes qui vivent dans des conditions très précaires. Donc, si la qualité de l'enseignement est très discutable, nous sommes obligés de payer des cours de renforcement pour nos enfants. Finalement, cela devient critique.
Malgré leur bonne volonté, les enseignants sont obligés de maintenir le cap s'ils veulent de meilleures conditions de travail et d'existence. C'est du moins l'avis de Pape Ndiaye, enseignant et membre du bureau syndical.
Le gouvernement n'a qu'à respecter ses promesses. Nous ne sommes pas des esclaves. Nos indemnités et nos primes ne sont pas négociables. Déjà, nos salaires ne font pas le poids, alors que tous les cadres du pays sont passés entre les mains des enseignants. Mais l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. On ne reculera devant rien et les grèves vont continuer si rien n'est fait.
Tout comme leur base, les syndicats d'enseignants sont catégoriques. Leurs revendications portant notamment sur la matérialisation des accords phares, tels que le parachèvement de la dématérialisation des actes et procédures de la fonction publique et la mise en place d'une rémunération juste et équitable pour les enseignants. Le chef de l'État Macky Sall a instruit les ministres en charge de l'éducation et de l'enseignement de faire un monitoring des accords avec les syndicats d'enseignants pour maintenir le dialogue et la paix à l'école. Une mesure appréciée par les syndicats, mais qui tarde à porter ses fruits. Seydina Ba, Gaya Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
L'interdiction de certains matériels pédagogiques à York, en Pennsylvanie, a été levée un an après que le problème a attiré l'attention nationale. Un reportage de Nukbat Malik à York, un récit de Ginny Kapumbu Villa.
L'automne dernier, le district scolaire de Central York, en Pennsylvanie, a mis en place ce qu'il a appelé un gel de certains supports pédagogiques axés sur les personnes de couleur. C'est à ce moment-là que la nouvelle union antiraciste Panther, ou PARU, est intervenue. Eda Gupta, collégienne de Central York, est la première présidente du groupe.
Je suis fâchée et je dois agir à ce sujet.
Les membres du conseil scolaire qui ont voté pour le gel se disent préoccupés que certains des documents mis en cause critiquent la police ou discutent des privilèges liés à la race blanche. D'autres craignent que le matériel ne crée des divisions raciales parmi les étudiants. Les supports interdits par le district scolaire de York en septembre dernier comprennent des dizaines de livres sur l'histoire des Africains-Américains. 270 articles, livres, documentaires et même un livre à colorier illustrant la diversité aux États-Unis font partie du lot. De même que 3 livres sur la lauréate pakistanaise du prix Nobel, Malala Yousafzai. Les étudiants étaient scandalisés. René Ellis, étudiante.
Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui croient encore que l'esclavage était la bonne réponse, qui n'aiment tout simplement pas les Africains-Américains. Il y a un manque d'éducation, de compréhension entre les gens, et surtout au cours des 2 dernières années. J'ai l'impression en tant que société, notre capacité à tenir des conversations et des dialogues vient de se réduire considérablement.
L'Union antiraciste Panther a été formée durant les manifestations contre la mort de l'Africain-Américain George Floyd alors qu'il était détenu par des policiers. Eda Gupta, présidente de l'Union antiraciste Panther, une lycéenne conseillère réseaux sociaux de l'Union antiraciste Panther. Avec l'aide de certains parents et enseignants, le groupe a commencé à protester contre cette décision. Christina Ellis, étudiante.
Nous l'avons découvert environ un an après sa mise en place. On l'a découvert par le York Daily Dispatch. Nous avons trouvé la liste, puis nous nous sommes réunis pour parler à nos conseillers. Nous devions opérer un changement et montrer au conseil scolaire que cela n'était pas une bonne chose.
Dans un email à VOA, le conseil scolaire s'est refusé à tout commentaire. Mais lorsqu'ils ont voté pour la levée de l'interdiction, les membres du groupe ont déclaré aux journaux locaux que le gel n'a jamais été une interdiction, juste un moyen de donner au conseil le temps de revoir les livres sur la liste et le matériel n'a jamais été retiré de la bibliothèque de l'école. Le groupe dit que le travail est loin d'être terminé.
Quand nous avons commencé à protester, c'est monté en puissance. Les chaînes d'information locales nous ont contactés. Nous avons fait des interviews et c'est allé jusqu'à CNN et Fox News. C'est à ce moment-là que le conseil d'administration a annulé l'interdiction ce lundi 20 septembre 2021.
York, en Pennsylvanie, est une communauté diversifiée, mais les gens ici disent que des incidents, comme le gel des livres, rendent la vie des minorités difficile dans la ville de Pennsylvanie.
C'est la période des fêtes de fin d'année aux États-Unis, et pour beaucoup, cela signifie que c'est le moment de commencer à chanter des chants de Noël. Mariam Iman Santoso a contribué à la réalisation de ce reportage de Mad Yoni de VOA, le récit avec Michel Joseph.
Diwa Dirga et Kate Hopkins Dirga forment un couple dans la banlieue de Washington. Depuis qu'ils ont aménagé dans leur quartier de Centerville en Virginie en 2016, ils participent au chant de Noël dans leur quartier. Pour Kate, c'est un tendre souvenir de son enfance.
Quand j'ai grandi dans notre quartier, j'ai beaucoup de bons souvenirs de notre quartier qui s'est réuni pour les chants de Noël. Il y avait une famille qui organisait toujours une after party avec des biscuits et du chocolat chaud. Et je suis sûre que les adultes ont autre chose, mais les enfants apprécient vraiment ces friandises après les chants de Noël.
Pour Dewa, même s'il a grandi à Bali, en Indonésie, cette activité fait naître des souvenirs chaleureux de convivialité entre voisins.
Je ne suis pas chrétien, mais hindou. Mais j'aime célébrer Noël pour soutenir ma femme et toute la famille. Donc, je ne fais que participer aux festivités.
Chaque année, ils sont rejoints par leurs voisins Jill et Josh Poulin, chantres de Noël.
On s'amuse tellement. Nous avons des voisins formidables. Cela a été une expérience amusante pour nous de nous réunir et de répandre la joie de Noël.
C'est juste un bon moyen pour les voisins de se réunir et de passer un bon moment.
Vous n'avez pas besoin de vous préparer ou de répéter pour rejoindre cette chorale de quartier. Il suffit d'apporter un peu de joie pour les fêtes et le voisinage. Sarah Lopez, chanteuse dans les chorales de Noël.
En réalité, nous ne venons pas ici pour être le meilleur chanteur. Nous sommes plus enthousiastes à l'idée de nous réunir et de chanter à voix haute ou basse et de répandre la joie de la saison dans notre quartier.
En tant qu'initiatrice de cette tradition de vacances, Kate a également le choix de choisir les chansons.
La première année, nous avions une longue playlist et cela n'a pas bien fonctionné car personne ne peut trouver la bonne chanson dans le paquet. Alors nous essayons de réduire le nombre de chansons. Donc cette année, j'ai juste choisi 10 chansons que nous aimons vraiment. Certaines sont profanes, d'autres sont plus religieuses comme Silent Night et The First Noel.
Et après une soirée de chant de Noël, les chanteurs retournent chez les Dirga pour partager l'esprit des fêtes et bien sûr, un chocolat chaud.
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances et la santé, le bonheur et la paix.
Nous avons tellement apprécié les chants de Noël. C'était tout simplement magnifique. Les enfants étaient merveilleux.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Josèle Morissin, Georges Léonard Sagno, Eric Manilakiza étaient à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.